Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes en partenariat avec Amadeus Piano. Une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Merci d'être fidèle au rendez-vous de Mélomanie, le magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. L'été est arrivé pile à l'heure cette année pour la fête de la musique qui, pour une fois n'est pas coutume, s'est déroulée sous le soleil et sous le ciel bleu. À Mélomanie, nous fêtons la belle, la grande musique chaque semaine grâce aux nombreux événements que propose Toulouse et notre région. Il y en a eu encore ces derniers jours et il va y en avoir d'autres les jours prochains. Pour commenter, présenter, annoncer tout ça, la bande des Mélomaniaques est-elle aussi au rendez-vous? J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Anne-Marie Chouchan, chroniqueuse musicale à la Dépêche du Midi, Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour Culture 31 et le journal La Voix du Midi, et Robert Pénavert, l'autre cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, également chroniqueur pour Culture 31 et les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi. Et puis, nous recevons deux invités d'honneur, Claude Scavazza et Jan-Willem Janssen. Le premier est le tout nouveau président des Arts Renaissants, le second en est le directeur artistique. Nous parlerons avec eux de la prochaine saison qu'ils organisent avec leur équipe. Avant cela, comme le veut la tradition, retour sur l'actualité de la semaine dernière pour la première partie de cette émission.
Mélomanie. Retour arrière.
Vendredi 15 juin à la Halle aux Grains, c'était le dernier concert de la saison des grands interprètes. Une ultime soirée en apothéose avec la venue pour la seconde fois de l'année du très prestigieux orchestre de chambre d'Europe dirigé par Yannick Nézet-Séguin, le chef qui a de plus en plus le vent en poupe sur la scène internationale. À leur côté, il y avait la violoniste géorgienne Lisa Batiashvili pour l'interprétation du concerto pour violon de Brahms. Nous avons entendu également la symphonie numéro 3 du même Brahms et l'ouverture de la fiancée vendue de Smetana. Tout était réuni pour une grande soirée de musique, comme souvent aux grands interprètes. Alors, est-ce que l'orchestre, le chef et la soliste ont été à la hauteur de leur réputation? Anne-Marie Chouchan, Serge Chauzy, on vous écoute.
Effectivement, tout était réuni pour que ce soit un beau concert. Ça a été un très beau concert. Alors, d'habitude, on parle de la sonorité d'un orchestre. Mais là, j'ai vraiment eu l'impression que cet orchestre qui vient régulièrement à Toulouse, hein, avec divers chefs, il est tel que sa sonorité, elle dépend du chef. Et quand on change de chef, l'orchestre change de sonorité. Et là, il y avait une espèce de transparence, d'énergie, de dynamisme qui était dû au chef, évidemment. Yannick Nézet-Séguin, bon, on connaît ses occupations multiples, et l'orchestre de Rotterdam, l'orchestre de Philadelphie.
De Montréal.
Montréal, évidemment,
rappelle,
ça, c'est le
Québécois,
plus ancien.
Hein.
Absolument, son orchestre de chez lui, donc oui, en quelque sorte. Et puis, il va y avoir le Metropolitan de New York, dont il prend la direction. Enfin, c'est ahurissant. Donc, on était très heureux de l'avoir, malgré toutes ses occupations. Alors, c'est un chef, d'abord, extrêmement sympathique, extrêmement dynamique. J'avais traduit ça en disant, sur son petit podium, on dirait un farfadet.
Un lutin.
C'est l'homme orchestre. Mais alors, s'il bouge beaucoup, ça n'est pas inutile. Je veux dire, il s'adresse à chaque musicien. On a l'impression qu'il dynamise chaque partie de l'orchestre. Donc, c'était vraiment très réjouissant à voir et à écouter. Alors, il a donné en particulier de Brahms une vision qu'on n'a pas toujours. Brahms n'a pas été très apprécié au début du XXe siècle par les Français. Debussy disait « Fuyons, il va développer ». Bon, il y avait horreur de Brahms, Debussy. On peut aimer Brahms et Debussy. Oui. Et là, il en donne une vision extrêmement dynamique, contrastée. Une espèce de Brahms en relief. Donc, c'était très nouveau et très convaincant. Il n'y a pas qu'une manière de diriger Brahms. On peut le diriger dans la grande tradition, un peu lourde, un peu massive. Bah, pourquoi pas
germanique.
Hein. Germanique. Bah, après tout, on ne va pas reprocher à Brahms d'être trop germanique. Hein. Mais c'était vraiment très, très beau. Alors, sa troisième symphonie en particulier était pleine de contrastes, avec des enchaînements. Il a enchaîné les mouvements très rapidement, sans laisser beaucoup de silence entre les différentes parties. Et il y avait tout, à la fois la dynamique, la tendresse, la grande nostalgie du fameux troisième mouvement, et vraiment une belle interprétation. Alors, et puis il y avait au tout début l'ouverture de la fiancée vendue de Smetana, une espèce d'emblème tchèque de son origine, de Smetana. Alors ça là, c'était brûlant, ça a pris feu là, l'orchestre a pris feu, c'était tout à fait réjouissant. Et puis donc le concerto pour violon de Brahms.
Bon, le seul qu'il ait composé.
Le seul qu'il ait composé, évidemment, avec cette violoniste donc, qui est géorgienne d'origine, qui vient d'Allemagne, qui vit à Munich, C'était magnifique, absolument. Elle a un pouvoir hypnotique sur les musiciens et sur le public. Un jeu à la fois volontaire, intense.
Hein, avec de...
Et puis tout d'un coup, un élan de douceur qui arrive. Donc rien n'est uniforme. Hein. C'était vraiment là aussi très en relief, avec beaucoup de rêves, beaucoup de beauté. Alors il y a eu une remarque à faire peut-être. C'est la cadence du premier mouvement. Cette cadence, très souvent, on a la cadence de Joseph Joachim, celui qui avait aidé Brahms à composer ce concerto. Ou alors de Kreisler, votre grand... violoniste du début du XXe. Et là, elle a choisi la cadence écrite par Ferruccio Busoni. Une cadence dans laquelle elle est accompagnée, entre guillemets, par la timbale. Chose assez inhabituelle. D'habitude, elle joue toute seule. Et ben là, c'était avec donc la timbale de l'orchestre. Un peu comme ce qu'avait fait Schnittke pour le concerto de Beethoven. Et puis, elle a donné un bis. Alors le bis, ça a surpris beaucoup de personnes parce que tout le monde a cru reconnaître du Bach. Mais avec... accompagné par les cordes de l'orchestre. Et puis c'était un peu différent. Alors en fait, ce bis, c'est une adaptation du choral Ich rufe zu dir de Bach, très connu, mais une adaptation faite par un compositeur suédois qui s'appelle Anders Ilborg, qui a d'ailleurs composé un concerto pour violon pour elle. Donc vraiment un concert tout à fait réjouissant pour le dernier de la saison des grands interprètes.
Et la prochaine, Dieu sait qu'on aura l'occasion d'en parler.
Oh là
Dieu
là.
Sait qu'elle s'annonce peut-être encore plus prestigieuse que d'habitude.
Hein, oui,
vraiment.
Oui, absolument.
Alors Anne-Marie, vous étiez aussi présente à ce concert. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter à ce qu'a dit Serge ?
Pas grand-chose, si ce n'est approuver totalement son analyse, surtout la symphonie. Moi, j'ai été très frappée par l'énergie qui se dégageait de la direction de Nezet Séguin, mais une énergie qui n'était jamais brutalité. Et en même temps, l'orchestre respirait, les grandes phrases étaient comme il fallait. Il y avait une lumière dans l'orchestre, et le discours avançait. C'était une interprétation qui était à la fois, c'est vrai, énergique, jamais trop rapide, je ne crois pas, et qui, en même temps, donnait de Brahms ce que disait Serge, c'est-à-dire une vision qui était loin d'être celle qu'on a souvent dite au 19e siècle ou même au nôtre, que c'était un peu la grisaille, que c'était une musique qui était un peu peut-être académique, je ne sais pas. Et je crois que c'est une œuvre, au contraire, la troisième, avec ce fameux mouvement et ce thème qui est devenu célèbre. Et c'est une œuvre qui est d'un lyrisme, qui chante. Enfin, c'est une très belle œuvre. Et Nezet Séguin, qui bouge, qui dirige avec ses bras, avec tout son corps, en donne une version qui, je crois, est captivante jusqu'à la dernière note. Et ça confirme les qualités qu'on avait vues en lui dès sa venue à Toulouse en 2004, puisqu'il est venu diriger l'Orchestre du Capitole en 2004, et c'était son premier concert en Europe. Et ensuite, il est venu à l'Orchestre du Capitole, à l'époque de Tugan Sokiev, parmi les jeunes chefs qui étaient invités au Capitole, qui auraient peut-être pu succéder à Plasson. Et lui, finalement, il a fait son chemin par ailleurs. Il conserve toujours l'Orchestre de Montréal, parce qu'il reste très québécois, il garde l'accent québécois, il l'a montré.
Il en est fier, il a voulu absolument le faire entendre au public, parce qu'il a dit que vous attendez tous d'entendre mon accent québécois, bien voilà, vous allez l'entendre.
Et quand même, pour éviter d'être trop surbooké, il vient de laisser le Rotterdam.
Cette saison. Et je pense que Montréal, oui, il ne lâchera pas celui-là.
Il ne lâchera pas Montréal, et il, comment dirais-je, c'est vrai, le maître, maintenant, il va être directeur musical, il va avoir du pain sur la planche pour diriger les opéras du Metropolitan Opera, et je pense que ça doit être aussi un grand chef d'opéra. Il l'a déjà prouvé. On l'a vu lors des retransmissions du Met.
Oui, Robert, quand on parle d'opéra, tout de suite, il dresse l'oreille et même il lève le doigt. Alors, on vous écoute.
Il faut que je me fasse une place.
Quelque chose.
Une petite place,
oui,
voilà.
Oui, allez-y.
Non, mais au sujet du Metropolitan, en fait, il a été obligé de prendre ses fonctions en avance. Ça ne m'étonne pas ce que tu dis, Anne-Marie, qu'il ait abandonné Rotterdam, parce que franchement, il ne pouvait pas
tout
faire.
Il ne pouvait pas tout cumuler.
Voilà, il a été obligé de prendre en partie les productions qui devaient être dirigées par James Levine. Oui. Déjà.
Ouais, déjà, oui. Avant même la nouvelle saison.
Avant la nouvelle saison, oui.
Donc une clôture des grands interprètes qui était tout à fait dans la lignée de toute la saison. Et je crois que la saison prochaine, dont nous reparlerons, sera aussi une saison de grands interprètes. Cette série qui, à l'origine, était un petit peu, on disait, concurrente des activités de l'Orchestre du Capitole, elle ne l'est pas du tout, parce que je pense qu'à Toulouse, il y a place pour un orchestre, mais il y a aussi place pour d'autres orchestres, des grands solistes de passage. Et c'est vrai dans le domaine symphonique, hein. Dans les autres domaines, musique de chambre ou soliste, il y a d'autres séries de concerts. Mais là, on a la chance aussi de pouvoir écouter d'autres orchestres, ce qui permet pour les gens qui n'ont pas l'occasion d'aller ailleurs, d'écouter des orchestres symphoniques et de voir ce qui se passe ailleurs.
Oui, d'ailleurs, ça a été salué par le public à la fin. Ils ont été rappelés, je ne sais combien de fois, et Yannick Nézet-Séguin et Elisa Batiashvili.
Et puis, quand il s'est adressé au public à la fin du concert, c'était pour dire à quel point il était heureux d'être là, à quel point l'orchestre, les musiciens de l'orchestre aimaient venir jouer à la Lohengrin, adoraient. Enfin, il a fait une espèce de déclaration d'amour au public toulousain. Donc, ce qui laisse supposer qu'on nous le reverrons.
Oui, probablement, ainsi que l'Orchestre de Chambre d'Europe. Hein. Ils sont venus deux fois cette année, saison. Hein. Voilà. Bon, alors, vous avez évoqué le célèbre troisième mouvement de la troisième symphonie de Brahms. Tout le monde le connaît, mais on ne s'en lasse pas. En voici une version de l'Orchestre de Chambre d'Europe, mais dirigée ici par le grand chef néerlandais Bernard Hettink. Début du célèbre troisième mouvement de la symphonie numéro 3 de Brahms, interprété par l'Orchestre de Chambre d'Europe sous la direction de Bernard Hettink. La saison des grands interprètes est donc terminée. En revanche, celle de l'Orchestre National du Capitole ne l'est pas tout à fait. L'avant-dernier concert de la saison à la Halle aux Grains a été donné samedi dernier et il a mis largement à l'honneur la Chine et ses musiciens. L'ensemble symphonique toulousain était en effet dirigé par le chef chinois Long Yu. Il y avait aussi sur scène la soprano Yuan Ming Song, la bien nommée, et le jeune violoniste américain Chad Hoops. Au menu, la symphonie numéro 4 de Gustav Mahler et le concerto pour violon du compositeur contemporain Chen, dont c'était la création française, un autre chinois donc, et je précise que son concerto est intitulé « La joie de la souffrance », tout un programme. Anne-Marie et Serge, vous avez découvert cette œuvre samedi, est-ce que ça a été une joie, une souffrance ?
Cette œuvre était une belle découverte parce que la joie de la souffrance, c'est quelque chose qui est tragique hein, dans son inspiration. Le compositeur a eu une grande tragédie dans sa vie et dans cette œuvre, il exprime à travers le violon, puisque là aussi il y avait le violon solo, Chad Hoops, qui est un Américain, un jeune Américain. Il exprime des sentiments très très profonds. En même temps, c'est une œuvre aussi qui joue beaucoup sur les sons, sur la qualité des timbres, puisque ce compositeur chinois a été élève de Messiaen dans les dernières années de la vie de Messiaen. Donc il est très attentif à la qualité des timbres dans un orchestre et cette œuvre baigne dans un climat qui est très beau, aussi bien sur le plan sonore qu'au plan de l'émotion, puisque l'œuvre est très profonde et poignante.
Oui, oui, tout à fait. C'est une œuvre bizarrement qui mêle la tragédie et le raffinement. Il y a le raffinement des sons. C'est une œuvre qui est composée en arche, qui commence par le silence. Le violon qui joue pianissimo tout seul et qui s'achève dans le silence, avec de grands élans dramatiques au milieu, comme des événements tragiques qui se sont produits dans la vie du compositeur que j'ai eu la chance d'interviewer et qui m'a dit que cette œuvre, c'était sa vie. Donc pour lui, c'était un peu une image de sa vie, une transposition musicale de ce qu'il a vécu. Vraiment un moment très émouvant et je crois que ça a touché toute la salle, hein, tout le public, ce qui n'est pas toujours le cas avec des œuvres très contemporaines, puisqu'il s'agissait là quand même d'une création française. L'œuvre avait déjà été donnée, je crois que c'était en Russie qu'elle a été donnée. Et donc, ce n'était pas la première mondiale, mais c'était la création française. Et là, le jeune violoniste, 23 ans, hein, Chad Hoops, qui était venu il y a déjà 3 ans, il n'avait que 20 ans, qui était venu pour jouer le concerto de John Adams. Donc, il se spécialise un peu, en tout cas chez nous, dans la musique plutôt contemporaine.
Contemporaine, oui, il a toujours son look d'adolescent.
Ah oui, oui, tout à fait.
Il a 23 ans, mais bon, tout jeune homme.
Oui, oui, un tout jeune homme qui a vraiment pris ça très à cœur. C'est un jeu très sensible, très doux, à la fois lui aussi raffiné, années. Et alors, c'est un concerto qui n'a pas une structure très classique, évidemment, qui est en un seul mouvement, continu, mais on a l'impression qu'il a respecté quand même une chose de la structure classique. Il y a un moment, une cadence quand même, du violoniste seul, qui joue un moment tout seul, comme une espèce de déclaration... très douloureuse, très belle. Donc vraiment un grand moment que cette création. Pour moi, ça a été le moment le plus émouvant de la soirée.
Oui, je suis comme Serge, c'est vrai que c'était le moment le plus émouvant. Et puis il est très réconfortant aussi de voir qu'un orchestre comme celui du Capitole peut régulièrement proposer des créations. Et on a eu aussi la création de l'œuvre de Mantovani récemment. Et que le public, en fait, peut-être, je ne sais pas si le public évolue ou autre, mais le public a l'air d'accepter des œuvres nouvelles sans préjugés, finalement, oui, oui. Et apprécie d'une certaine manière.
Il peut y adhérer. On a l'impression que le public est plus ouvert qu'il ne l'était auparavant.
Oui,
et
ça...
qu'il accepte. Oui. Effectivement, comme dit Anne-Marie, qu'il accepte la nouveauté et les sonorités un peu étranges.
Et c'est pourtant un public qui n'est pas forcément averti, mais qui accepte peut-être les œuvres telles qu'elles sont, qu'elles soient des créations ou des œuvres du répertoire classique. Cette création était vraiment très bien accueillie. Oui. Elle était dirigée par ce chef chinois.
Oui, alors, je vais y venir justement à Longyou. Et je crois que ce n'est pas la première fois qu'il y
est. Non, il était venu déjà il y a quelques années également. Et alors là, bon... difficile d'évaluer sa manière de diriger dans la création. C'est une création...
Oui, ce qu'il apporte à l'interprétation.
Exactement.
Sans référence, c'est compliqué.
Sans référence, c'est difficile. Par contre, pour la 4e symphonie de Mahler, là, évidemment, les références ne manquent pas, dont celle de Bernard Haitink, que l'on écoutait tout à l'heure. Grand Mahlerien, s'il en est. Moi, j'étais un peu... décontenancé par sa manière d'aborder la symphonie. Cette symphonie, c'est un peu la seule symphonie complètement heureuse de Mahler, qui n'est pas dramatique en elle-même, qui est, j'allais dire, légère, mais je mets des guillemets, hein, c'est de la musique de Mahler quand même. Mais elle est très différente des autres, hein, notamment de la précédente, la 3e qui est cosmique, et de la 5e qui est dramatique et tragique. Hein, et celle-là, non. Et là, je trouve qu'il l'a prise un peu trop dramatique. Alors, c'était très bien mis en place, hein, aucun problème, l'orchestre s'est défendu comme d'habitude, magnifiquement, avec des solos splendides, mais j'ai trouvé pour ma part
la vision un peu trop
avant, un peu trop forte. Et notamment le mouvement final, qui est le mouvement avec la soprano. Alors, la soprano était dans la même vision que le chef, puisque c'est une soprano avec une voix corsée, un vibrato un peu large, hein, un peu dramatique, mais je trouve que ça ne correspond pas tout à fait à ce qu'on attend de ce solo, qui est un peu le solo d'un ange. C'est un peu un ange qui s'adresse au public. Donc, elle parle des beautés célestes. Et là, c'était un peu trop dramatique, à mon avis. Hein.
Je voulais qu'on en parle justement de cette soprano, Yuan Ming Song, parce qu'on la connaît à Toulouse.
Oui.
Pour une bonne raison.
Mais parce qu'elle a été premier prix du concours international, je ne sais plus
2014,
en quelle année. 2014.
Oui, donc, c'est
très
récent,
bien. Donc, il y a 4 ans. Donc, oui. Ah, mais c'est une voix. Hein. C'est une voix solide. Mais je ne la trouve pas vraiment en situation.
Adaptée à cette œuvre,
cette œuvre, qui est très particulière. C'est presque une voix d'enfant qu'on aimerait entendre.
Eh oui. Anne-Marie ?
Moi, c'est la seule réserve, ça serait que dans le premier mouvement, le chef s'est un peu perdu dans la symphonie de timbres. C'est vrai qu'il a montré lors de ce concert qu'il était surtout préoccupé peut-être par les sons, les timbres, et que ça manquait un peu de précision rythmique dans le premier mouvement, qui part un peu dans tous les sens, puisqu'il y a des changements de rythme permanents, de climat. Mais après, je pense que ça s'est bien redressé, que le reste et le mouvement lent étaient très beaux. Et là, il y avait une belle alchimie sonore, et finalement, cette symphonie, qui est quand même une symphonie un peu à part, c'est vrai, à la production de Mahler,
hein,
qui est peut-être plus classique que d'autres, parce que l'orchestre a joué ça de façon toujours la même maîtrise, la qualité des cordes, la précision de tous les instruments avant.
Et le hautbois,
les merveilleux solistes au Capitole maintenant, depuis quelques années.
Absolument.
Parce qu'il y a quelques années, quand il n'y avait pas tous ces solistes, ils hésitaient programmer des symphonies de Mahler, par exemple. Et la plupart des orchestres français, on disait, n'arrivaient pas à interpréter cette musique totalement comme elle devrait être interprétée. Là, maintenant, ils sont tout à fait aussi bien chez eux dans ce répertoire que dans d'autres répertoires.
Absolument.
Toutes les symphonies de Mahler sont belles. La 4e, comme les autres, en voici un extrait. Il s'agit d'une version de l'Orchestre National du Capitole, donnée il y a quelques années sous la direction du chef Giancarlo Guerrero, avec la soprano Sulla Parasidis. Thank you. Un extrait de la 4e symphonie de Mahler interprétée par l'Orchestre National du Capitole sous la direction de Giancarlo Guerrero. C'est avec elle que nous allons conclure cette première partie d'émission, mais Robert Pénavert voulait ajouter quelque chose avant qu'on termine.
Voilà, je n'ai pas osé interrompre Anne-Marie et Serge lorsqu'ils parlaient des précédents concerts et plus particulièrement de cette création française en disant qu'effectivement le public toulousain, les mélomanes toulousains avaient bien évolué, accepté aujourd'hui, étaient enthousiastes en écoutant cette musique. Je voudrais également me faire le défenseur, si besoin était, mais je ne pense pas que ce soit le cas, des lyricomanes, qui depuis pas mal d'années maintenant, et ça, il faut remercier Nicolas Jouel, je pense, de cette action, font le plein autant pour le couronnement de Popée que pour Billy Budd de Britten. Donc les gens ne se précipitent plus simplement pour le Trouvère, Rigoletto ou Traviata. Le public toulousain, que ce soit celui de la Lograin ou celui du Théâtre des Capitoles, est très curieux et très amateur au sens étymologique du terme.
Et même pour des créations comme celle de Philippe Hurel il y a quelques années, les pigeons d'argile. Hein.
Oui.
On termine là-dessus. Rendez-vous dans une minute pour l'agenda et avec Claude Scavazza et Jan Willem Janssen pour évoquer la prochaine saison des Arts Renaissants. Restez bien notre écoute. À tout de suite.
Vous recherchez un clavier numérique ou un piano acoustique? Amadeus Piano propose les plus grandes marques au meilleur prix. Amadeus Piano est aussi la clé de vos concerts et de vos événements. Du piano droit haut de gamme au piano à queue de concert, nous mettons tout en œuvre pour vous fournir une prestation de haute qualité. Avec Amadeus Piano, la référence du service et du transport de piano à Toulouse et dans la région, bénéficiez du savoir-faire de Robert Burali, facteur de piano diplômé et accordeur du Conservatoire et de l'Orchestre de Chambre de Toulouse. Retrouvez tous nos produits et services sur amadeuspiano.fr. Amadeus Piano vous souhaite de passer un agréable moment avec Mélomanie.
Seconde partie de Mélomanie avec les invités de ce numéro, Anne-Marie Chouchan, chroniqueuse musicale à la Dépêche du Midi, Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour Culture 31 et le journal La Voix du Midi, Robert Pénavert, l'autre cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, également chroniqueur pour Culture 31 et les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi, et avec nos deux invités d'honneur, Claude Scavazza et Jan Willem Janssen, respectivement président et directeur artistique des Arts Renaissants.
Mélomanie. L'agenda.
Et dans l'agenda de la semaine prochaine, deux événements au Théâtre du Capitole, mais il ne s'agit pas de la Clémence de Titus dont les représentations se poursuivent jusqu'au 1er juillet. Parallèlement à l'Opéra de Mozart et dans un tout autre genre, il y a un concert du Chœur du Capitole mercredi 27 juin à 20h et un récital de la soprano Anaïs Constant jeudi 28 juin à 12h30 dans le cadre des Midis du Capitole. Il s'agit des derniers événements de la saison dans les deux cas. On va retrouver donc Robert Pénavert parce qu'il a eu la bonne idée d'attirer mon attention sur ce concert et ce récital. C'est donc lui qui va avoir la redoutable mission de nous les présenter.
Redoutable et très agréable mission. Alors chronologiquement, donc ce soir c'est la première de la Clémence de Titus, nous en avons parlé. Mais le 27, c'est le concert du Chœur du Capitole. Et Dieu sait, pour tous les habitués du Théâtre du Capitole, savent combien le Chœur du Capitole, sous la direction d'Alfonso Cayani, est parvenu vraiment à des sommets de couleur, de puissance, de musicalité, de discipline. En fait, ils sont vraiment, vraiment parmi les meilleurs, à ma connaissance bien sûr, les meilleurs chœurs d'opéra français, en mettant dans le lot l'Opéra de Paris, bien sûr. Donc, cette année, ils clôturent leur saison avec plusieurs chœurs extraits d'opéra, mais... Alors ça, c'est également très intéressant et très curieux avec, à mon avis, c'est la première fois que c'est donné à Toulouse, une messe latino-américaine. Alors évidemment, quand on parle de messe latino-américaine, on passe de suite à la Missa Criolla, bien évidemment. Mais ce n'est pas celle-là, c'est la Missa Tango de Martín Palmieri. Alors, Palmieri est un compositeur argentin, né en 1967, donc tout à fait contemporain. Il a écrit cette messe en 1996. Alors, cette messe respecte un certain nombre de passages de la liturgie. Alors, il y a qui Gloria, Credo, etc. Bon, je ne vous les cite pas tous. Et alors, ce qu'il y a de particulièrement intéressant, c'est que cette messe va allier, enfin la musique du moins de ce compositeur, va allier de la musique dite savante, mais également la musique folklorique. Et c'est pour ça que dans cet orchestre, alors il y a un orchestre normal, il y a des chœurs normaux, il y a normalement un piano, normalement un quatuor de solistes, et il y a un bandoneon. bien évidemment. Nous sommes en Argentine et il y a un certain nombre de passages de la messe sur lesquels je ne dis pas qu'on pourrait danser, mais enfin, pas loin.
Ça s'appelle Missa Tango.
Et ça s'appelle Missa Tango. Alors, à l'origine, c'était Missa à Buenos Aires. Depuis, ça s'appelle Missa Tango. Alors, franchement, je vous suggère vraiment d'aller découvrir cette œuvre. Vous allez être absolument surpris, agréablement. Et la fin de ce concert, c'est une série de chœurs. Alors là, vous allez être un peu moins surpris, puisque nous allons avoir des extraits de Doña Francisquita. Vous savez, c'est cette zarzuela d'Amadeo Vives qu'on a entendue par deux fois, déjà, je crois, au Théâtre du Capitole, ces dernières des années. C'est le célèbre chœur des romantiques. Ensuite, Georges Bizet avait le chœur des enfants. Vincenzo Bellini, le chœur du premier acte de Norma. Verdi, Patria Oppressa, vous savez, dans Macbeth, c'est ce chœur qui précède de la grande scène récitatif Erika Ballette de Macduff à la fin de l'opéra. Et il y a alors, je ne sais pas comment il faut prendre le dernier morceau qui va être donné, mais voilà, je vais vous donner simplement deux aiguillages. Il va y avoir un extrait du Mephistophèle et de Boïto. C'est l'Ave Signore, c'est le grand chœur final. Hein. Et vous le savez peut-être, certainement, mais pour nos amis auditeurs qui ne le savent pas, le Théâtre du Capitole est coproducteur de Mephistophèle avec les Corrigidorange cette année. Donc, est-ce que c'est un hasard tout ça? Je l'ignore complètement.
Donc, alors, ça, c'est mercredi 27 juin.
Là, il y a l'orchestre de chambre, les chœurs et la maîtrise du Capitole, tout ça sous la direction d'Alfonso Cayani. Il y a également, dans la Habanera de Carmen, il y a l'intervention d'Eleonore Pancrasi, mezzo-soprano, que nous écouterons l'année prochaine dans le rôle de Mafia Orsini, qui est un rôle travesti de la Lucrèce Borgia de Donizetti. Donc, ça fait vraiment un très beau programme.
Très beau plateau aussi.
Et le concert qui clôture vraiment une saison qui a été marquée par des points extrêmement forts.
Oui, je pense que personne ne se plaindra des performances du Chœur du Capitole tout au long de la saison dans les opéras qui ont été programmés. Donc, le concert mercredi 27 juin à 20h pour le Chœur du Capitole et le lendemain à 12h30, Anaïs Constant, qu'on connaît bien à Toulouse puisqu'elle est de Montauban et qu'elle a été formée au Conservatoire arrondissement régional toulousain. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce récital?
Alors d'abord, qui s'inscrit dans la série des Midis du Capitole, vous savez, c'est cette série de concerts qui voit à partir de 11h15 une queue de plusieurs centaines de mètres s'étirer sur la place du Capitole, peu importe le temps qu'il fait, parce que tout simplement, le placement est libre et puis que l'entrée est à 5 euros. Et c'est absolument extraordinaire de pouvoir entendre de grands morceaux, que ce soit des mélodies ou des airs d'opéra, interprétés par des artistes parfois de grand renom, accompagnés au piano. Et nous avons le bonheur d'avoir à Toulouse, un chef de chant qui accompagne de nombreuses manifestations des Midis du Capitole, c'est Robert Gonella. D'ailleurs, Eric, je vous suggère peut-être l'année prochaine de trouver un créneau pour l'avoir comme invité, Robert Gonella,
parce que
des tonnes de choses à raconter sur son métier de chef de chant au Théâtre du Capitole. Pour l'heure, il accompagnera donc Anaïs Constant, que nous avons écouté de manière conséquente lorsqu'elle a pris le rôle de Micaela lors des dernières reprises de Carmen au Théâtre du Capitole. Alors cette fois-ci, elle arrive avec un programme, comme c'est de coutume dans ce genre d'exercice des Midis du Capitole, des mélodies et des airs d'opéra. Alors dans les airs d'opéra, parce qu'on ne peut pas tout citer évidemment, il y a deux extraits de Roméo et Juliette, de Gounod, deux extraits un peu antinomiques et qui d'ailleurs posent souvent de sérieux problèmes aux cantatrices au point que certaines coupent le second. Alors aucune ne coupe la valse de Juliette parce que ça, bon, c'est sacré, tout le monde le connaît, mais beaucoup de Juliette un peu légère dans la tessiture médium se passent volontiers de l'air, le fameux air dit du poison. Or, eh bien voilà, Anaïs Constant a décidé de l'inscrire. Alors, je vous donne ce programme sous réserve parce que jusqu'au dernier moment, les chanteurs parfois décide d'autres programmes. Mais enfin, en gros, nous devions entendre ces deux airs. Également un extrait de La Fille du Régiment. Ben évidemment, c'est le salut à la France, bien sûr.
Hein. Et les filles de Cadix aussi,
et les filles, voilà. Puis voilà, plein de mélodies et plein de très belles choses.
Mélodies de Debussy.
De Debussy, de Reynaldo Hahn, de Duparc. Voilà, bon, c'est un programme qui ne peut que ravir le plus large public et qui va nous permettre de clore la saison, j'imagine et je l'espère, en beauté.
Alors, vous nous avez donné l'eau à la bouche avec la Missa Tango de Martine Palmieri. On va en écouter un extrait, il s'agit du Kyrie.
Thank you.
le très beau Kyrie de la Missa Tango de Martine Palmieri, une des œuvres que va interpréter le chœur du Capitole au Théâtre du Capitole mercredi 27 juin à 20h. Et puis n'oubliez pas, le lendemain, le récital d'Anis Constant, jeudi 28 à 12h30 dans le cadre des Midis du Capitole. Maintenant, nous retrouvons nos deux invités, Jan Willem Janssen et Klaus Cavazza, les directeurs artistiques et présidents des Arts Renaissants. Avant de parler de la programmation de la saison prochaine avec vous, Jan Willem Janssen, on va commencer avec Klaus Cavazza, parce que si vous êtes président des Arts Renaissance, et depuis quelques semaines seulement, vous venez de prendre la succession de Michel Courtois, qui a longuement présidé aux destinées de l'association. Alors, évidemment, lorsqu'on reçoit le tout nouveau président de ce qui est une véritable institution musicale toulousaine, et qui organise une saison de concert parmi les plus anciennes de la Ville Rose, on a envie de lui demander ce que sont ses intentions et comment il envisage l'avenir. Est-ce que vous allez vous inscrire dans la continuité ou est-ce que vous avez de nouvelles idées et l'envie de créer un nouveau souffle aux Arts Renaissants ?
Vous avez parlé de Michel Courtois, je voudrais évidemment commencer par rendre hommage à celui qui pendant, vous l'avez dit, très longtemps et précisément 17 ans, a présidé cette belle association. Je rassure d'ailleurs les amateurs d'orgue, il est toujours président de Toulouse les Orgues et il reste président de Toulouse les Orgues. Alors en effet, effectivement, le conseil d'administration au mois de février dernier m'a fait l'honneur de me demander de succéder à Michel et de prendre la présidence. Alors peut-être en deux mots pour vos auditeurs, rappeler que cette association, les Arts Renaissants, a été créée en 1978 par Xavier Darras, que dès 1982, une association avec le musée des Augustins a été mise en place pour créer ce concept de concert au musée, un concept totalement inédit en France à l'époque et repris ensuite par de très nombreux musées. Depuis cette date, donc sous la direction de Jan Willem Janssen, directeur artistique, et mené par une équipe donc de bénévoles passionnés que je tiens à évidemment aussi rendre hommage, les Arts Renaissants, vous le savez, organisent chaque année, de novembre à avril, 6 concerts avec 3 marqueurs très forts en fait, qui, quand ils sont réunis, font une réelle spécificité à ce concept d'Art Renaissant. Premier marqueur, le parti pris de petites formations, de la musique de chambre, des récitals. Deuxième marqueur, le choix de lieu qui favorise l'intimité entre le public et les artistes. Alors notamment le Salon Rouge du Musée des Augustins, on y reviendra peut-être tout à l'heure compte tenu de son actualité. Mais aussi donc la saison qu'on a appelée En balade et hors les murs pour la saison 2018-2019. Dans des lieux comme des églises, Saint-Pierre-des-Cuisines, donc des lieux assez intimes. La jauge classique de nos concerts, c'est 350 à 400 personnes. Voilà, et puis le troisième marqueur, c'est l'accueil d'artistes célèbres de renommée internationale, mais aussi les meilleurs de nos artistes régionaux, locaux, et puis des jeunes talents prometteurs. Voilà, je ne vais pas égrener toutes les artistes qui ont fait les différentes saisons des Arts Renaissants. Peut-être le petit clin d'œil qu'on peut faire, si on se rappelle ou si on sait que Patricia Petitbon, en 2002, a fait son premier concert à Toulouse aux Arts Renaissants, et que Philippe Jarouski, en 2006, a aussi fait son premier concert à Toulouse, sur les planches, si je puis dire, des Arts Renaissants.
Vous l'avez évoqué, là, ce concept de concert au musée qui était lié au fameux Salon Rouge du Musée des Augustins, actuellement en travaux. Est-ce qu'on peut espérer que vous reveniez au Salon Rouge? Est-ce que c'est votre vœu, d'ailleurs?
Alors, c'est incontestablement notre vœu, hein, puisque finalement, c'est 2 et probablement 3 saisons d'affilée qui seront hors les murs, comme je le disais tout à l'heure. C'est pas pour nous une solution, effectivement, idéale. On l'a vu tout à l'heure, je l'ai dit dans mon commentaire d'introduction, c'est notre marque de fabrique, c'est notre ADN, c'est les concerts au musée. Donc oui, évidemment, retour au concert, au Salon Rouge du Musée des Augustins, le plus vite possible, bien évidemment. On est effectivement tributaire des travaux, hein. On sait que le Musée des Augustins a engagé un certain nombre de travaux. Donc oui, pour un retour espéré, et on fait tout, et rien d'ailleurs n'amène à penser que ce serait...
Ça sera quel horizon, le retour, s'il a lieu au Salon Rouge?
À mon avis, pour la saison 2020-2021.
2020-2021. Ouais. Partenaire historique de la saison des Arts Renaissants, le Musée des Augustins pour la mise à disposition du Salon Rouge. Quels sont les autres?
Alors aujourd'hui, on a... depuis toujours le soutien indéfectible de la mairie de Toulouse. Hein. Même si, on le verra après, les sommes allouées sont en baisse, hein. Ce soutien est en baisse, ce n'est pas spécifique à nous.
Ça ne concerne pas que les Arts Renaissants.
C'est vrai pour tout le monde. Plus récemment, la Fondation Fonroga qui nous soutient, la Société Patrimoine SA et le Crédit Mutuel. Donc voilà, 4 acteurs. Évidemment, et c'est le travail et le souci d'un président, c'est d'alimenter et faire que les moyens soient là pour offrir des concerts de qualité à nos publics. Donc 2 actions déjà engagées. La première est pas très originale, hein, c'est de faire ce que beaucoup de musées ou beaucoup de concerts font, c'est-à-dire, ou associations en tout cas font, c'est les Amis des Arts Renaissants. Hein, là, l'idée, elle est simple. Hein, c'est les particuliers philanthropes, généreux, amoureux de la musique et qui ont envie de soutenir l'association pour qu'elle perdure et qu'elle se développe bien. La deuxième, plus originale, c'est un cercle de mécènes, le cercle de mécènes des Arts Renaissants. on commence à bien travailler le sujet. Alors l'idée, hein, c'est d'associer des acteurs économiques régionaux, essentiellement, créer avec eux des relations uniques qu'on peut enrichir par des conseils personnalisés qu'on peut donner à ses sponsors pour l'organisation d'événements, d'invitations à des moments privilégiés, des visites, des répétitions, des rencontres avec les artistes, et puis offrir une visibilité, hein, c'est 2000 spectateurs par an, les Arts Renaissants. Donc ça offre quand même une visibilité importante pour les sociétés qui voudraient nous rejoindre. Et puis un thème qui m'est cher, rajouter à cette dimension, organiser ou soutenir des actions sociales, éducatives ou récréatives, hein, dans le but de faire connaître, de donner goût à des publics qui n'y accèdent pas spontanément, hein, soit culturellement, soit par manque de moyens, soit par manque d'informations. On viserait là assez précisément les salariés des entreprises adhérentes, leurs familles, les scolaires, les étudiants évidemment, le public de jeunes des quartiers défavorisés, et puis d'une manière plus générale, les personnes et associations qui relèvent du champ social. Donc voilà les envies du nouveau président.
Oui, et puis les nouveautés que vous apportez en prenant la présidence des Arts Renaissants. La ligne artistique, la programmation, est-ce qu'on peut attendre des nouveautés aussi là-dessus ou est-ce qu'elle va rester celle qu'elle est depuis les tout débuts, hein.
Oui, c'est ça. Donc, très honnêtement, en tout cas, c'est ma vision. J'avais un petit peu de recul avant d'être président. Mon entreprise soutenait les Arts Renaissants. C'est déjà un point important. Donc, je connais bien. Non, je crois honnêtement que ce dosage subtil, ce cocktail entre les artistes de renommée internationale, les jeunes talents, les meilleurs artistes locaux, moi, ça me semble très bien. Par goût peut-être personnel, j'y mettrais peut-être un peu plus de concerts à voix, mais on en discutera avec le directeur artistique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas actuellement, il y en a déjà.
Oui, il y en a déjà.
Mais c'est vrai que la saison prochaine, il n'y en a pas.
Justement, ça va nous donner l'occasion de nous tourner vers Jan Willem Janssen pour nous plonger dans la programmation de la saison 18-19. Comment vous l'avez bâti? Est-ce qu'on va y entendre des musiciens, des formations qu'on a déjà eu l'occasion de voir aux Arts Renaissants? Est-ce qu'il y a de nouveaux artistes que vous allez nous faire découvrir à l'occasion de cette saison prochaine?
Les deux cas sont justes, Eric. C'est toujours comme ça aux Arts Renaissants. On a une fidélité de certaines artistes où on peut demander de revenir une année sur quatre ou sur trois. C'était le cas avec Gustav Leonhardt, qui est donc parti il y a quelques années et qui aimait bien venir à Toulouse. C'est le cas avec Jordi Savall, qui tous les trois ans nous propose un programme. C'est le cas cette année avec le Quatuor Hagen, qui sont déjà venus et j'étais vraiment ébloui par ce quatuor. Là, il y avait des sonorités extraordinaires. À un moment, je le dis souvent, j'ai entendu un quatuor de saxophone. Écoutez, il faut le faire quand même. Ou de flûte à bec. Ils ont une sonorité, ils sont venus plusieurs fois. Et donc cette année, ils reviennent le 20 février de l'année prochaine 2019 avec Shostakovich, avec Dvorak et avec
Franz Schubert, la jeune fille à la mort.
Exact. Il y a des gens qui reviennent, mais il y a aussi des jeunes ensembles qu'on n'a jamais venus encore ici à Toulouse. Le premier concert est dans ce cas. C'est un jeune ensemble dirigé par Vincent Bernard qui est formé à Lyon et ensuite à Bâle. Et pendant ses études, il avait déjà développé une activité comme meneur de troupes. Il avait fait plusieurs saisons de cantates de Bach à Lyon avec une documentation incroyable, digne de grands musicologues. Donc, à la fois, il pratique et aussi, il cherche comment c'était à l'époque et il donne des solutions ou bien des visions magnifiques. Il vient ouvrir la saison le 14 novembre avec son ensemble Il Delirio Fantastico. Et c'est des musiques italiennes du 17e qu'il va proposer. Donc, c'est à la fois des jeunes talents, des gens qui sont jamais venus encore, et aussi les valeurs sûres.
Alors, je crois que Serge Ozzy voulait dire quelque chose concernant le Quatuor Hagen.
Je voulais simplement rappeler que la première fois que le Quatuor Hagen est venu à Toulouse, c'était Xavier Darras qui l'avait fait venir, et c'est la première fois qu'il est venu, c'était aux Arts Renaissants. Ouais. Donc, merci les Arts Renaissants de nous avoir fait découvrir.
C'est une longue histoire.
L'un des très, très grands quatuors actuels, sinon le plus grand. Je suis David Willem, c'est un ensemble fabuleux.
Comme vous venez d'en parler, j'avais prévu un extrait de La jeune fille et la mort. Un des passages les plus connus de ce merveilleux quatuor de Franz Schubert. On va écouter une version interprétée par le Quatuor Hagen. On ne s'en lasse pas en parlant tout à l'heure du fameux troisième mouvement de la symphonie numéro 3 de Johannes Brahms. C'est pareil pour La jeune fille et la mort.
Thank you.
Extrait de La jeune fille à la mort, le quatuor de Franz Schubert interprété par le quatuor Hagen. Le quatuor Hagen sera en concert dans le cadre de la saison des Arts Renaissants le mercredi 20 février 2019 à l'auditorium de Saint-Pierre-des-Cuisines à 20h30. Tous les concerts des Arts Renaissants commencent à 20h30. On vous l'avait annoncé début de saison le 14 novembre à l'église Saint-Exupère avec Il Delirio Fantastico, la formation dirigée par Vincent Bernard. Et puis après, il y aura la chapelle Rhénane. Ça, je voulais évidemment qu'on en parle, parce qu'ils vont proposer un programme de cantate de Bach à l'église Saint-Jérôme. Ce sera le mercredi 12 décembre. Eux, ils sont déjà venus.
Oui, c'était avec de la musique française. Et on a la chance de les entendre dans des cantates de Bach. Ils sont de Strasbourg. Benoît est strasbourgeois. Il a une sœur qui s'appelle Salomé. Elle est chanteuse, là, soprano. Elle a fait une belle carrière en musique baroque, mais aussi en Mozart et puis même de la musique romantique. Ça ne m'étonnerait pas qu'elle chante avec l'ensemble de son frère. On est juste avant Noël, dans le temps de l'Avent. Ce concert a lieu dans l'église Saint-Jérôme, tout adapté pour la musique aussi à cette période de l'année. C'est des cantates magnifiques de Bach, trois cantates, et je suis très heureux.
Oui, je pense que ça va être un des grands moments de la saison, mais pour chaque concert, ce sera un grand moment, a priori. Le suivant, qui aura lieu même pas un mois plus tard, le mercredi 9 janvier, à l'Auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines, et il faut le plateau de l'Auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines, parce que là, il y aura 20 musiciens. Cette formation, c'est l'Accademia dell'Annunziata, avec le grand violoniste Giuliano Carmignola. Alors, eux, c'est peut-être une première, non ?
Cet ensemble, oui. Et en fait, c'est des jeunes, et j'aimerais beaucoup que quelque part, puisqu'ils sont à l'Auditorium Saint-Pierre, que nos étudiants en violon,
au conservatoire,
viennent au concert, éventuellement puissent assister à des répétitions de cet ensemble, pour qu'il y ait un échange possible entre ces jeunes musiciens italiens et les nôtres.
Il y a longtemps que, si je puis dire, vous les pistiez, cette Accademia dell'Annunziata, pour les faire venir aux Arts Renaissants.
Non, c'était par Carmignola que...
Que vous connaissez,
que
vous avez souhaité... Ouais. Les faire venir. Alors, le programme s'appelle Un Italien à Londres. Ça interpelle un peu. Pourquoi Un Italien à Londres ?
Parce qu'à Londres, à cette époque-là, beaucoup de compositeurs sont venus d'Italie pour exercer leur métier. D'ailleurs, c'était aussi à Londres que leur musique a été éditée, ou à Amsterdam. Et ils étaient très exportateurs de musiciens, l'Italie, à cette époque-là.
Parce que j'ai regardé le programme, c'est pas un programme où il y a que des compositeurs italiens, loin de là. Il y a Johann Christian Bach,
oui.
Carl Philipp Emanuel Bach, donc une symphonie pour chacun d'entre eux, et un concerto aussi pour Carl Philipp Emanuel Bach. Et puis, il y a une œuvre de Carl Friedrich Abel et une œuvre de Felice Giardini, deux concertos, le numéro 2 et le numéro 3, opus 15. Qui est ce compositeur que personnellement je ne connais pas ?
Et même moi non plus.
c'est bien, je me sens moins bête d'un seul coup.
Découverte.
Serge Chosy qui connaît tout. Même Serge Chosy ne connaît pas, rendez-vous compte.
Abel, oui, et... on entend des œuvres de lui, mais effectivement Giardini, non. Monsieur Jardin, on est heureux de l'accueillir.
On est heureux d'accueillir Monsieur Jardin, on va même être heureux d'écouter sa musique. Oui. Alors j'ai un des concertos opus 15, mais c'est le numéro 1. C'est pas un de ceux qui sera joué à l'occasion de ce concert, Giardini, interprété par l'Accademia dell'Annunziata. Concert opus 15 numéro 1 de Felice Giardini, interprété par l'Accademia dell'Annunziata avec le violoniste Giuliano Carmignola. Donc eux, ce sera le mercredi 9 janvier à Saint-Pierre-des-Cuisines. Ensuite, il y aura le 11 mars, Roger Muraro, Fanny Robillard, Raphaël Perrault et Patrick Messina. 11 mars Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, Roger Moraro, grand pianiste qu'on admire et qu'on connaît tous, qu'on apprécie de voir tous les ans à Toulouse. Comme on arrive à la fin de cette émission, je voulais parler du tout dernier concert, parce que là c'est Thibaut Garcia, on parlait des talents régionaux. Maintenant Thibaut Garcia c'est une carrière internationale, mais il a été formé au conservatoire à rayonnement régional de Toulouse. On a eu le grand plaisir de le recevoir dans cette émission il y a quelques semaines, et il viendra avec le flûtiste Boris Grolier.
Oui, il avait fait plusieurs propositions et donc c'est cette dernière proposition qui a été choisie par les membres du bureau de l'association Les Arts Renaissants. Et c'est Thibaut qui a lui-même voulu jouer à l'église Saint-Jérôme. Il a trouvé l'acoustique de cette église bien pour son instrument, aussi le contact avec le public, et je pense que ce sera un très beau concert où la guitare sera mise en valeur.
Guitare et flûte, c'est pas courant.
J'imagine que c'est un beau mélange, parce que la flûte c'est quand même la mélodie, la guitare c'est les harmonies, le rythme, donc en fait c'est très complémentaire.
Je sais que Thibaut Garcia apprécie beaucoup de jouer avec Boris Grolier. Ouais. Alors il y aura un programme aussi très divers, il y aura du Ibert, du Handel, du Castelnuovo Tedesco, du Villa-Lobos et du Piazzolla, alors évidemment toujours les hispaniques et les latino-américains lorsqu'il y a de la guitare. Mercredi 10 avril, église Saint-Jérôme à 20h30, donc dernier concert de la prochaine saison des Arts Renaissants. Il faut malheureusement conclure cette émission. Merci à Anne-Marie, Robert et Serge de m'avoir assisté dans son animation, et merci à Klaus Cavazza et Jan-Willem Janssen d'y avoir participé et nous avoir présenté la prochaine saison des Arts Renaissants. Pour retrouver le détail de la programmation, pour vous abonner et réserver vos places, il y a le site web des Arts Renaissants, www.art-renaissant.fr. En ce qui concerne le concert du Chœur du Capitole mercredi 27 juin à 20h, le récital d'Anaïs Constant le jeudi 28 à 12h30 et les représentations de la Clémence de Titus jusqu'au 1er juillet, tout ça au Théâtre du Capitole. Il faut vous renseigner et réserver vos places sur le site www.theatreducapitole.fr. Et puis je veux signaler également que l'œuvre du compositeur toulousain Thierry Huillet, Fantaisie et hymne sur le Secanto, d'après le fameux chant pyrénéen que vous connaissez tous, va être donnée ce samedi 23 juin à 19h40 à Toulouse, square Charles de Gaulle, juste derrière le Capitole, par l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, sous la direction d'Enrique Mazzola, un événement original à ne pas manquer. Un grand merci à Christophe Aubry d'avoir assuré la régie technique de cette émission, qui est, comme d'habitude, disponible et réécoutable en podcast dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h, ainsi que les samedis à 10h. Merci encore de votre fidélité. Je vous souhaite à tous une excellente semaine musicale.